Eugène Sue, Les billes d'Agathe, 17 juin 1844. Cet enfant, encore passé tantôt devant ma clôture de mon petit jardin, pendant que j'émondais les gourmands de mes rosiers. Quoique misérablement vêtue, cette toute jeune fille est charmante. Quel âge peut-elle avoir, ouf? 14 ans à peine. De ma vie, je crois, je n'ai vu un profil plus pur, des joues plus roses, des cheveux d'un blond plus doux. Son mauvais petit bonnet de crêpe noir connaît à peine la natte, contenait à peine la natte épaisse que formait ses chevelures derrière sa tête. Sa robe de deuil, toute usée, dessinait une taille élégante mais un peu grêle, car cette jeune fille touche encore à l'enfance. Elle est en deuil. De qui est-elle en deuil? Déjà orpheline sans doute, orpheline et pauvre, et si belle, et si jeune. Oh, cela est triste. Elle marchait lentement d'un air pensif, s'arrêtant de temps à autre pour regarder, tantôt du côté du grand terrain désert qui longe mon jardin, tantôt vers la rue du Faubourg du Temple. Ses traits paraissaient impatients, imposants, patients et inquiets, comme si elle eût en vain attendu quelqu'un. J'étais abrité derrière la charmille, cet enfant ne pouvait pas m'apercevoir. Il m'a semblé qu'une larme coulait sur sa joue. Mais, 4 heures ayant sonné, au loin, la jeune fille a précipitamment disparu. La physionomie de cet enfant m'avait déjà frappé il y a 2 ou 3 jours, lorsque je l'avais vu passer devant mon jardin, car j'ai écrit dans ce journal quelques mots sur cette rencontre. Après tout, de quoi remplirais-je mes manteaux, sinon des petits incidents d'une vie maintenant si calme et si solitaire? Les temps ne sont plus où le récit hâté de tant d'événements devant les souvenirs de toutes sortes venait chaque jour encombrer les pages de ce livre de Locke, comme nous disons à bord du vaisseau le foudroyant. Hélas, la vieillesse approche. Et un mélancolique repos succède à la tourmente des passions. 18 juin 1844. Oh, la vue de cet homme m'a révolté et attristé. Peut-être me trompais-je, mais il me semble qu'il existe je ne sais quel lieu ou quel rapport entre cet homme et cette jolie et blonde enfant. Comme elle, il est aussi venu vers les 3 heures. Comme elle, il a paru aussi attendre quelqu'un avec impatience, elle sans doute, car lorsqu'à 4 heures on sonnait, comme elle encore, il s'en est allé, mais les traits contractés par une expression de colère brutale. Il a même prononcé quelques paroles de dépit ignobles et cyniques que j'ai parfaitement entendues, car assez curieux de voir si la jeune fille aux cheveux blonds y reviendrait, je m'étais caché derrière ma charmille. Les quelques mots grossiers prononcés par cet homme sont donc facilement arrivés jusqu'à mon oreille. C'était un homme de 30 ans environ, ses traits assez beaux, paraissaient flétris par les excès, son teint était hâve, plombé, ses joues creuses, son regard audacieux, sa physionomie effrontée respirait à la fois la bassesse et la dépravation. Il était vêtu avec un mélange de faux luxe et de misère significatif. Il portait crânement un chapeau gris râpé, posé de côté sur sa longue chevelure non frisée. Un col de chemise, une blancheur douteuse, se rabattait sur une mince cravate rouge, nouée en bout corde, tandis qu'une longue et grosse chaîne de cuivre doré serpentait sur son gilet de velours bleuâtre à boutons de cuivre. Enfin, il tenait ses mains plongées dans les poches d'un pantalon écossais brillant sur des bottes éculées dont le bout se recourbait en patins. Ce personnage hasardeux me parut le type ignoble de certains vendeurs de chaînes de sûreté ou chevelures de acheteurs de contre-marques qui pullulent aux abords des théâtres. Il y avait un tel contraste entre la physionomie cynique et basse de cet homme et les traits candides de la toute jeune fille qu'il me fut d'abord impossible de m'arrêter à cette révoltante pensée qu'il existait quelques liens d'affection ou de sympathie entre ces deux êtres si dissemblables. Mais bientôt, je songeais avec amertume, presque avec effroi, à l'attrait étrange, presque fatal, que la corruption et l'audace exercent souvent sur ce qui est un pur, innocent et timide. Hélas, tous les donjons n'ont pas la voix enchanteresse, la grâce patricienne, le pourpoint doré d'or et une maison princière. Il en est des donjons de tout état, de toute classe. Il est des donjons en haillons. Mais leur séduction est également ainsi insolente et féroce. Mais tous et chacun dans sa sphère ont également l'art d'amuser, de plaire ou de convaincre par de menteuses paroles, tour à tour gaies, langoureuses ou passionnées. Mais tous savent, par des mots hardis prononcés tout bas, par des regards ardents et lascifs, troubler l'âme et les rêves de l'innocence. Tous enfin, au moment donné, employant la prière, la force, l'ardeur contagieuse du désir, savent enfin triompher d'une victime naïve, crédule, aimante et éperdue. Demain, je parlerai à cette pauvre enfant. Il le faut. Tout me dit qu'un danger la menace. 19 juin 1844. Je n'ai revu ni la jeune fille, ni l'homme, à figure ignoble. 13 décembre 1844. Je rentre profondément attristé. Ce récit m'a brisé le cœur. Quel douloureux enseignement! Ah! Il y a quelque chose de plus effrayant que la fatalité antique qui poussait forcément certaines races à des crimes monstrueux. C'est la misère. La misère, cette épouvantable fatalité des temps modernes. Voici ce qui s'est passé aujourd'hui. On vient de me le raconter dans l'un des groupes animés dont je m'étais approché en revenant chez moi, tout étonné de l'espèce de trouble qui régnait dans ce quartier ordinairement paisible. Non loin de ma demeure habite une brave femme, veuve et mère de famille. Elle est, de son état, blanchisseuse au bateau. Partant dès le matin pour la rivière, elle ne revient que le soir après sa tâche. Elle a 3 enfants, 2 petits garçons, l'un de 5 ans, l'autre de 7, et une fille de 14 ou 15 ans. Cette pauvre veuve, occupée toute la journée à son bateau afin de gagner le pain de sa famille, ne peut surveiller ses enfants. Les 2 plus jeunes sont à l'asile, mais comme par un regrettable usage, ces salles d'asile ne s'ouvrent que 2 ou 3 heures après que la journée de travail de l'artisan a commencé et se ferment 2 heures avant qu'elle ne soit terminée, les parents sont obligés ou de renoncer à envoyer dans les refuges leurs enfants trop petits pour s'y rendre seuls, ou de payer quelqu'un pour les conduire et pour les ramener. Oh, dépenses minimes, sans doute, mais toujours bien lourdes pour le pauvre. Cette veuve, chargée de famille, afin de s'épargner ses frais, c'était à peu près ce que lui coûtait la nourriture de l'un de ses enfants, avait chargé sa fille aînée de conduire ses deux petits frères à la salle d'asile le matin et de les ramener à l'heure de la fermeture. Cette jeune fille était en apprentissage chez un cordonnier comme brodeuse de souliers. Comme il lui fallait quitter son travail dans la matinée pour aller chercher ses frères chez sa mère afin de les conduire à la salle d'asile, fort éloignée de son atelier, puis interrompre encore son labeur dans l'après-midi afin d'aller rechercher les enfants, elle passait pour ainsi dire autant de temps dans la rue que chez son maître, qui encaussait et traitait avec une grande dureté, car, disait-il, ses absences depuis 2 ou 3 mois étaient devenues de plus en plus prolongées. Tantôt, à l'heure où la jeune fille rentrait chez sa mère avec les 2 enfants qu'elle venait d'aller quérir, 2 agents de police qui l'avaient suivie l'ont arrêtée à la porte de sa maison, l'accusant d'avoir, pour la 4e fois, volé des billes d'agate chez un épicier, devant la boutique duquel elle passait journellement. L'épicier, survenant, avait soutenu l'accusation, poussée à bout, disait-il, par la récidive. La malheureuse enfant fut fouillée et l'on trouva en effet sur elle 3 petites billes d'agate. Comme on la traitait de voleuse, elle se mit à fondre en larmes, disant qu'elle n'en avait pas pris ses billes pour les voler, ou plutôt pour les vendre, et que les autres étaient cachées dans le lit qu'elle partageait avec ses 2 petits frères. On monte dans la misérable mansarde qui servait en effet de demeure à cette pauvre famille, et l'on trouve environ 12 douzaine de billes d'agate cachées dans une paillasse. Mais pourquoi, lui dit-on, avez-vous dérobé ces objets qui ne vous étaient d'aucune utilité et qui n'avaient d'ailleurs presque aucune valeur? Elle hésite à répondre. Ses sanglots redoublent. Enfin, pressée de questions, la malheureuse enfant avoue que l'aspect brillant, poli, bigarré de ses billes l'avait toujours vivement frappée lorsqu'elle passait devant cette boutique, qu'elle n'avait pas pu résister à l'insurmontable tentation de s'emparer de ses jouets, parce qu'elle en est enceinte. Elle a 15 ans à peine. Mais j'y songe. Le souvenir de cet enfant aux cheveux blonds et la figure candide me vient à l'esprit. Elle demeurait dans ce quartier. Je vais savoir. 14 décembre. C'était bien elle. À la façon dont les voisins qui avaient assisté à son arrestation me l'ont dépeinte, il n'y a pas à en douter. C'était bien elle. Elle s'appelle Arsène Rémy et n'a pas 15 ans. On signale pour son amant un coryphée d'estaminet qui était attaché à ses pas depuis quelques mois. Voilà aussi dépeint ce misérable. C'était l'homme à figure ignoble que j'avais remarqué. Oh, ce n'est pas tout. Lorsqu'Arsène Rémy a été emmené comme voleuse, ses 2 petits frères ont été confiés à une voisine. Et lorsque le soir, la pauvre veuve, rentrant chez elle, brisée de fatigue après sa journée de labeur, a demandé sa fille aînée, elle a si brusquement appris l'arrestation et le déshonneur de sa malheureuse enfant qu'elle est tombée comme foudroyée. Elle a été transportée à l'hospice. On désespère de ses jours. Les voisins étaient trop pauvres pour recueillir les 2 petits orphelins. Le magistrat les a fait conduire dans la maison des jeunes détenus, en prison. L'un a 5 ans, l'autre 7 ans. La loi les considère comme vagabonds. Sans doute, à 7 heures, leur mère est morte. Leur sœur aînée n'a que 15 ans. Elle est mère et jetée au milieu de la corruption contagieuse des prisons. Et pour ces orphelins, quel avenir! Pour une infortunée déjà mère, quel avenir! Et pour cet enfant qui doit naître sous les verrous, quel avenir! Et au moment où je sortais de cette maison, un homme à la démarche chancelante et avinée apparut à la porte de la sombre allée, demandant d'une voix enrouée « Arsène Rémy !» J'ai reconnu l'homme à la face ignoble, le Don Juan de Ruisseau, le séducteur de cette malheureuse. La colère a fait bouillir mon sang. Je suis sorti brusquement, et profitant de ce que le misérable m'avait légèrement heurté, le saisissant au collet, je l'ai jeté sur le pavé. Sa tête rebondit sur une borne, et je m'éloignais lentement. Je l'ai entendu m'adresser quelques injures empreintes d'un lâche courroux. Et le crime de cet homme restera impuni. Au-dessus de 11 ans, lorsqu'il n'y a ni violence, ni évidemment, ni enlèvement, ni détournement, la jeune fille est réputée librement consentante. Malheureuse créature à jamais perdue, sans doute. Est-ce donc à la précocité du vice qu'il faut attribuer sa chute? Non, mais à la position que la misère lui a faite, privée de la surveillance tutélaire de sa mère, forcément jetée dans les rues de Paris, en proie à toutes les obsessions, elle a succombé, comme tant d'autres, à l'un des mille influences de la misère. La misère, répétons-le, cette fatalité des temps modernes. Eugène Sue.